Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand l'autre devient l'ennemi. Un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans La Presse. Sixième de 6 articles. Trois pays, trois dérives. L'histoire est riche d'exemples où des dirigeants autoritaires en quête de pouvoir ont cherché à stigmatiser un groupe minoritaire pour asseoir leur pouvoir, souvent avec des conséquences dramatiques. États-Unis. Le virage autoritaire lancé aux États-Unis avec le retour au pouvoir du président Donald Trump va de pair avec une traque acharnée des migrants, quel que soit leur statut sur le plan juridique. Les actions agressives des agents du service de l'immigration et des douanes, ICE, marquées par de nombreux événements violents, y compris contre des citoyens américains, sont défendus par le chef d'État et son entourage comme une étape nécessaire pour protéger la majorité du pays contre un hypothétique risque d'assimilation souvent brandi par les mouvements suprémacistes blancs. Dans « Tribalism », le chercheur Stephen Hopfall relève que Donald Trump a commencé avant même son premier mandat à marteler que la civilisation américaine était en danger en multipliant les salves racistes, alimentant un sentiment d'alarme particulièrement marqué chez des individus craignant le déclassement social. Il illustre notamment le risque lié à ce type de dérive par les émeutes survenues dans la ville de Chicago après la Première Guerre mondiale, alors que le retour des soldats entraînait une forte compétition pour les emplois et le logement. Des émeutiers blancs, pour la plupart d'origine irlandaise, ont alors pris d'assaut des quartiers noirs, tuant près d'une trentaine de personnes et brûlant des centaines de maisons avant que le calme ne puisse être rétabli. Bosnie-Herzégovine. Stephen Hopfall estime que l'histoire tragique de la Bosnie-Herzégovine témoigne de la fragilité culturelle des pays civilisés et de la vitesse à laquelle une animosité tribale, susceptible de transformer un paisible voisin en acteur génocidaire, peut revenir à la surface. Il note dans le livre « Tribalism » que les communautés catholiques, orthodoxes et musulmanes établies dans ce territoire balkanique ont longtemps vécu ensemble en relative harmonie, multipliant les mariages mixtes. La décision du gouvernement bosniaque de déclarer son indépendance face à la Yougoslavie en 1992 et la levée du contrôle exercé par Tito ont rapidement mené à des affrontements violents. Les anciens rivaux ethniques, citation, ont réactivé des haines anciennes et tenté de se venger pour des exactions passées. Fin de citation. Dans les années subséquentes, note M. Hopfall, des milices serbes, appuyées par l'armée yougoslave à majorité serbe, ont tué plus de 100 000 personnes, majoritairement musulmanes. L'adhésion à une dichotomie « nous contre eux » n'explique pas tout, mais n'en demeure pas moins un élément central du conflit, relève le chercheur. Allemagne. Les difficultés économiques et le sentiment d'humiliation éprouvé par la population allemande après la Première Guerre mondiale sont souvent évoqués pour expliquer l'ascension au pouvoir d'Adolf Hitler et l'instauration d'un régime totalitaire qui a précipité un nouveau conflit mondial et mené à l'élimination de millions de Juifs. Dans « Les origines du totalitarisme », Hannah Arendt a relevé que le potentat avait réussi à tirer profit du sentiment d'aliénation de nombreux Allemands pour générer, propagande à l'appui, un mouvement de masse porté par des théories conspirationnistes. Le sociologue allemand Erich Fromm a avancé pour sa part que le fascisme avait représenté une échappatoire pour les Allemands face à l'incertitude et à l'insécurité liées à la société capitaliste moderne. La spécialiste de psychologie politique Karen Stenner note que le gouvernement allemand a adopté après la Seconde Guerre mondiale l'un des cadres légaux et constitutionnels les plus contraignants du continent européen pour assurer la protection des libertés individuelles et empêcher de nouvelles dérives. Le pays a parallèlement balisé la liberté d'expression de manière à empêcher toute apologie du nazisme ou négation de l'Holocauste. C'était « Quand l'autre devient l'ennemi ». Trois pays, trois dérives. Un dossier de Marc Thibodeau, paru le 15 février 2026 dans La Presse. Sixième de 6 articles. Thank you.
ce qu'il reste de nous. Un texte signé José Boileau, publié dans l'actualité édition de mars 2026. Nous sommes à l'automne 2010. Antonine Maillet vient de publier « Fais confiance à la mer, elle te portera », où elle décortique son rapport à la littérature. Dans une entrevue accordée au quotidien Le Devoir, elle ose alors une prédiction. Citation, « Le monde a été oral jusqu'à la fin de l'écriture et il y en a eu du monde avant. » Ellipse, c'est une technologie, l'écriture, qui peut être dépassée, qui pourrait devenir une langue morte comme le grec et le latin. Fin de citation. Quand l'écriture s'éteint, une telle idée m'avait marqué et indigné. N'empêche qu'à l'époque, la popularité croissante des messageries instantanées amenait bel et bien la célèbre écrivaine à envisager cette possibilité. Citation, « On est peut-être en train de passer avec le chat à autre chose », disait-elle, fin de citation. 15 ans plus tard et 1 an après son décès, j'en suis presque à me ranger dans le camp de la grande autrice acadienne. La faute au développement vertigineux de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui fait miroiter monts et merveilles à tous les secteurs d'activité économique, cherche déjà à nous servir d'enseignants, de conseillers, de psychologues, d'amis et même d'amants. Reste que ces talents artistiques peuvent être époustouflants, même quand ils s'alimentent de l'originalité de vrais créateurs d'œuvres. L'intelligence artificielle générative écrit des romans, compose des chansons, réarrange des photos, des films, des tableaux. Déjà, des créateurs tirent leur révérence devant ce potentiel. Des publications supposément journalistiques sont entièrement rédigées par l'intelligence artificielle et parfois on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Les médias sérieux, eux, mettent à jour leurs règles d'utilisation de l'intelligence artificielle en répétant, s'en tenir à un principe fondamental, elle peut aider un journaliste, pas s'y substituer. Pour le moment, ai-je envie d'ajouter, l'intelligence artificielle finira bien par pouvoir se surveiller elle-même avec rigueur et efficacité. On n'arrêtera pas le progrès, si tant est qu'on puisse associer ce mot à un aussi bouleversant changement de paradigme. Car il faut bien admettre que les moyens de communication qui ont accompagné le développement des civilisations, des dessins sur les murs des cavernes aux messages abrégés à déchiffrer sur nos cellulaires, s'éloignant pour de bon d'un contact d'humain à humain. C'est la machine qui est désormais à l'autre bout du fil. Je trouve cela affolant, à moins de me plier à la sagesse d'Antonine Maillet. On ne sent ni révolte ni désolation dans son entretien avec Le Devoir. Pourtant, elle aurait pu s'émouvoir, car elle y disait aussi, citation, « Si j'ai un titre de gloire, c'est d'avoir fait passer l'acadien d'une langue orale à l'écrit. » Fin de citation. Pour Antonine Maillet, à ce moment précis de l'histoire, c'était le geste à faire pour assurer une reconnaissance à son peuple, puisque l'écriture est aujourd'hui synonyme de maîtrise et de domination. La souffrance des nations autochtones est d'ailleurs indissociable de cette non-reconnaissance de leur histoire basée sur l'oralité. Mais quand on englobe les millénaires passés et ceux à venir, la perspective change. Citation, les grandes épopées se chantaient. Fin de citation soulignait ainsi l'autrice. De fait, les chants, comme les contes, relèvent d'une vaste richesse d'inventions collectives, alors que l'écriture fut longtemps réservée à des personnes composant une élite détachée des collectivités. Avons-nous vraiment rompu avec cette division? Le taux d'analphabète fonctionnel au Québec prouve que la démocratisation de l'écriture est inachevée. Et les livres, plus nombreux que jamais, témoignent davantage d'un besoin de se raconter que d'une soif de littérature. Peu importe le style, il s'agit de parler à quelqu'un, aujourd'hui comme c'était le cas hier. D'une manière ou d'une autre, ce besoin-là subsistera. Un détail m'a d'ailleurs accroché quand j'ai relu l'article du Devoir. À côté de Mme Maillet se trouvait un livre à demi entamé, « Le Moyen-Âge » de Jules Michelet, grand historien français du 19e siècle. Or, je suis moi-même plongé dans des livres portant sur cette période, notamment sur la place oubliée qui occupait les femmes. L'écrivaine ressentait-elle le besoin de vérifier comment on vivait dans un très lointain autrefois? Pour ma part, je cherche à comprendre les rapports à la famille, à l'économie, au pouvoir, au divertissement, complètement différents de ce qui s'est développé depuis la Révolution industrielle et à des années-lumière de notre monde axé sur les écrans. En retournant 1000 ans en arrière, je me réconforte en mesurant l'instinct de lutter ou de fêter côte à côte pour faire face aux enjeux et aux fléaux de l'époque. Résister ensemble aux dérives de son temps, c'est bien ce qui fait que l'humanité n'entre jamais dans les petites cases qu'on lui assigne. Le reste, de la technique, guillemets, qui peut être dépassée. Fin des guillemets. Et c'est la fin de ce texte de José Boileau titré « Ce qu'il reste de nous » publié dans l'actualité édition de mars 2026.
Ils n'aiment pas leur job et après. Un texte de Maude Goyer paru le 30 décembre 2025 dans la presse. À une époque où être performant et débordé est valorisé, ne pas aimer sa job demeure tabou. Pourtant, certains travailleurs l'assument, leur passion est ailleurs, leurs priorités le sont aussi. Et contrairement aux idées reçues, ils sont sereins et heureux. Je ne travaille pas dans un milieu toxique et je ne manque pas de défis. Je suis compétente, je suis occupée, mais mon travail m'ennuie. Enfermée dans son bureau, dans un centre de services scolaires de la grande région de Montréal, Marie-Michel, qui témoigne sous le couvert de l'anonymat par crainte de réaction de son patron et ses collègues, lance ce cri du cœur à voix basse. Non, elle n'aime pas sa job. Mais elle ne veut pas que cela se sache. C'est mal vu de dire que ta job, ce n'est pas ta passion, dit-elle. Moi, je compte les années qu'il me reste. Je ne suis pas malheureuse, mais je ne suis pas heureuse. Je fais ce que j'ai à faire et ça paie les factures. Conseiller d'orientation depuis plus de 30 ans, Mathieu Guénette a longtemps pensé qu'il était impératif d'aimer son travail. Il fallait que ce soit passionnant, qu'on y évolue et qu'on s'y épanouisse. Avec la maturité et l'expérience, je remets cela en question, dit-il. On n'a pas tous les mêmes profils, on ne fait pas les mêmes choix, selon nos ancrages, entre autres. Des ancrages. Il fait référence au modèle des 8 ancres de carrière développé par le psychologue américain Edgar Schein à la fin des années 1970. Selon cette théorie, chaque individu est attaché à son travail et motivé par lui pour une raison en particulier, que ce soit l'autonomie ou la sécurité, le mode de vie, le dévouement, etc. Et cela peut changer au fil du temps, rappelle M. Guénette. Pour certaines personnes, le travail n'est pas la priorité, mais un outil pour atteindre un équilibre de vie. François Quentin a fait ce choix. Il n'accepte que les contrats à court ou moyen terme, car il est toujours entre deux continents. Je reviens d'un séjour de 6 mois en Asie, raconte le globe-trotteur de 38 ans, et je repars pour les Antilles au printemps. Je reviens ici, je travaille pour me refaire, et je repars. Pour ce consultant en communication, l'idée n'est pas de vivre de sa passion, puisque sa passion, c'est le voyage. Il m'arrive de me faire juger, dit-il, de me faire regarder de haut. On pense que je suis paresseux, pas très ambitieux, instable, loser. La psychologue organisationnelle Julie Carignan rappelle que ce n'est pas accessible à tout le monde de gagner sa vie avec sa passion. Elle donne l'exemple d'un peintre ou d'un joueur de hockey, des milieux où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Selon elle, il y a une tendance à la pensée monolithique. Travail et passion sont liés. Il faut nuancer, note l'associée directrice chez Humans, aussi conseillère en ressources humaines, agréée, distinction fellowship. On n'a pas manqué sa vie parce que notre travail ne nous passionne pas, mais il y a une pression sociale liée à cette perception. Et les réseaux sociaux ont contribué à ça. On y projette une image très léchée de sa vie professionnelle et personnelle. Mathieu Guénette ajoute que certains travailleurs ne croient pas au système capitaliste et refusent de suivre la cadence qu'il impose. Pour certains, selon lui, la priorité, c'est la famille, un projet personnel, un sport. Leur travail ne les embête pas, mais c'est une commodité tout simplement. Et ce n'est pas nécessairement un recul de voir les choses ainsi, souligne Estelle Morin, psychologue et professeure titulaire à HEC Montréal. Le travail n'a pas toujours occupé la place qu'il occupe aujourd'hui. Sa définition a changé. Il y a 50 ans, le mot « travail » ne voulait pas dire « emploi », explique-t-elle. La recherche démontre que le mot « work » a été remplacé par le mot « job » dans les années 1940-1950. Dans son évolution, le travail est devenu une sorte de calcul, précise la professeure, un engagement entre un individu et une organisation. À la base, le travail a deux fonctions. Il est structurant, c'est-à-dire qu'il structure nos journées, il apporte une routine, et il permet aux êtres humains de s'exprimer. À mesure qu'on a vidé le travail de son sens, il est devenu un contrat. Et donc, le travailleur soupèse ce que ça lui coûte de rester, ce que ça lui coûte de partir, illustre-t-elle. Réorientation. Même si la société entretient le narratif du dépassement de soi et de l'accomplissement au travail, certains travailleurs envisagent leur journée au bureau comme un contrat, point. On ne peut pas tous être des stars, glisse Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. Et de toute façon, ce serait essoufflant à gérer et à nourrir au travail. Selon elle, il ne faut pas nécessairement douter, comme gestionnaire ou patron, du dévouement des gens qui n'aiment pas leur boulot. Ça ne dit rien sur leurs compétences ou leurs performances, dit-elle. Ils ne vont peut-être pas lever la main pour en faire plus, mais ils font ce qui est attendu d'eux. Il faut apprécier ça. C'est honnête. Et si le travailleur qui n'aime pas son emploi veut opérer un changement en 2026 ? La psychologue Julie Carignan propose une démarche en trois étapes. Faire de l'introspection pour mieux cerner ce qu'on aime, vérifier si nos compétences et nos intérêts s'arriment avec ce qu'on aime, finalement, faire le pont entre les deux. On voit alors quel métier correspond à la fois à ce qu'on aime et ce dans quoi on est bon, dit-elle. Mathieu Guénette nuance. Parfois, ça prend seulement une petite réorientation pour bien se positionner et ensuite parvenir à faire ce qu'on aime. C'est une bonne stratégie. C'était « Ils n'aiment pas leur job » et après. Un texte de Maude Goyer, paru le 30 décembre 2025 dans la presse.
Les Québécois mangent encore trop salé et trop sucré, révèle une vaste étude. Un texte d'Annabelle Cailloux, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir. Malgré les discours ambiants sur l'importance de bien manger, l'assiette des Québécois laisse encore à désirer. Trop de sel, trop de sucre, pas assez de fruits et de légumes, nos habitudes alimentaires sont loin de respecter les recommandations de la santé publique, révèlent les premières données de Nutri-Québec, la plus vaste étude jamais menée sur le sujet dans la province. En tête des mauvaises habitudes, un appétit démesuré pour les aliments salés. Pas moins de 8 adultes sur 10 consomment plus de 2300 mg de sodium par jour, soit la limite à ne pourtant pas dépasser pour prévenir les maladies cardiovasculaires. La consommation moyenne de sodium d'un adulte québécois s'élève à 3200 mg quotidiennement. 7 adultes sur 10 consomment plus d'une boisson sucrée par semaine, la moyenne s'établissant à 125 ml par jour. Et seul le tiers des adultes, 36 % consomment les 5 portions de fruits et de légumes par jour recommandées par la santé publique. On est bien loin de la cible de 50 % que s'est fixée Québec en 2019, avec sa politique gouvernementale de prévention en santé. Ces résultats, dévoilés le mercredi 7 janvier 2026, reposent sur le suivi des habitudes alimentaires de plus de 6300 adultes de la province depuis 2019. L'enquête Nutri-Québec vise à suivre l'évolution de l'alimentation de la population québécoise sur un horizon de 25 ans afin d'établir un portrait clair des défis nutritionnels. Des inégalités alimentaires bien ancrées. Benoît Lamarche, chercheur responsable de Nutri-Québec et directeur du centre nutrice de l'Université Laval, n'est pas surpris par ces constats qui confirment une tendance à travers le Canada et ailleurs sur la planète. Ils n'en sont pas moins préoccupants, sachant que la qualité de l'alimentation constitue l'un des principaux facteurs de risque des maladies chroniques. Le problème, insiste M. Lamarche, ce n'est pas un manque de connaissances ou de volonté. Les gens savent ce que veut dire « bien s'alimenter », mais ils ont de la difficulté à le transposer dans leur quotidien. Cette difficulté résulte d'une combinaison de facteurs, selon lui, à commencer par l'accès limité à des aliments de qualité, que ce soit pour des raisons financières ou géographiques. L'étude montre justement bien que l'insécurité alimentaire influence la qualité de l'alimentation et accentue par la bande les inégalités en matière de santé. Alors que 40 % des personnes en sécurité alimentaire consomment 5 portions de fruits et de légumes par jour, ce chiffre tombe à 10 % chez celles en situation d'insécurité alimentaire. On parle quand même de 15 à 20 % de la population au Québec touchée par cette insécurité alimentaire. Ça commence à faire beaucoup de monde qui vit des enjeux nutritionnels importants, souligne le chercheur. Revoir nos modes de vie. Le rythme de vie effréné, le coût des aliments toujours plus élevé, l'omniprésence des produits transformés et la publicité jouent aussi un rôle dans l'adoption de mauvaises habitudes alimentaires, de l'avis de M. Lamarche. On est dans des modes de vie où on travaille beaucoup, on est pressé, on manque de temps pour cuisiner. Les aliments emballés et prêts à manger à l'épicerie deviennent une option facile et parfois moins chère, note le chercheur, soulignant toutefois qu'ils sont de moins bonne qualité. C'est sûr qu'on ne peut pas du jour au lendemain imposer à tout le monde de retourner en cuisine, mais il faut, de façon urgente, reconfigurer comment on voit la place de l'alimentation dans notre vie. Le chercheur espère que le nouveau symbole nutritionnel désormais obligatoire sur les produits transformés, considérés trop gras, trop sucrés ou trop salés, aidera les Québécois à faire de meilleurs choix à l'épicerie et poussera l'industrie à leur proposer des produits plus sains. D'autres mesures politiques seront toutefois nécessaires pour changer les choses. Il existe des taxes sur les boissons sucrées dans certains pays qui ont entraîné une diminution de leur consommation. Et si ces taxes-là étaient réinvesties pour aider les populations vulnérables à avoir accès à des fruits et des légumes à moindre coût, propose-t-il. Si le Québec encadre globalement bien la publicité alimentaire à la télévision, M. Lamarche suggère également de mieux réguler les réseaux sociaux. C'est à ça que sert Nutri-Québec, dresser un portrait de la situation afin de guider nos décideurs pour enfin changer les choses. C'était « Les Québécois mangent encore trop salé et trop sucré », révèle une vaste étude. Un texte d'Annabelle Caillou, paru le 7 janvier 2026 dans Le Devoir.
Dépression, obésité, manque de sommeil, les téléphones intelligents pourraient mettre vos enfants en danger, suggère une étude. Un texte de l'agence QMI, publié le 1er décembre 2025 dans le Journal de Montréal. Faut-il donner un téléphone portable à son préadolescent? Une nouvelle étude suggère que répondre oui trop tôt pourrait nuire à sa santé. Dépression, obésité et manque de sommeil sont plus fréquents chez les jeunes qui obtiennent un téléphone avant 12 ans. De nombreux parents font face à un dilemme. Offrir un téléphone portable à leur préadolescent pour assurer sa sécurité lorsqu'il sort seul, tout en craignant qu'il devienne dépendant de cet appareil. L'idée de pouvoir rester en contact rassure, mais l'usage excessif des écrans inquiète. Ces préoccupations sont fondées. Selon une étude publiée lundi dans la revue Pediatrics, menée sur plus de 10 000 enfants de 12 ans, elle révèle que les jeunes qui obtiennent un téléphone intelligent plus tôt sont davantage à risque de souffrir d'obésité, de dépression et de manque de sommeil. Et plus le téléphone est acquis tôt, plus les risques augmentent. L'étude présente toutefois certaines limites. elle n'examine ni l'usage précis du téléphone, ni le temps passé à l'écran, deux éléments qui pourraient influencer la santé. Elle ne permet pas non plus de déterminer si ces tendances s'observent chez des enfants plus jeunes ou plus âgés. Malgré ces limites, les chercheurs de l'étude, dont son auteur principal est psychiatre au Children's Hospital of Philadelphia, le Dr. Ran Barzilay, estiment que leurs résultats devraient guider les parents dans leurs décisions concernant les téléphones intelligents et encourager la création de politiques publiques visant à mieux protéger les jeunes. Des conseils à prendre en compte. Envisager de retarder l'accès au téléphone intelligent. À la lumière des résultats de l'étude, il est recommandé de repousser l'achat d'un téléphone intelligent pour un jeune adolescent et d'opter plutôt pour d'autres moyens de communication, comme un simple téléphone à clapet. Interdire les téléphones dans les chambres. Le Dr. Ran Barzilay recommande de garder les téléphones hors des chambres la nuit, car les enfants ont tendance à les utiliser sous les couvertures, perturbant ainsi leur sommeil. Surveiller la santé mentale des enfants. L'un des principaux liens entre téléphone intelligent et dépression vient probablement de la culture de la comparaison, a souligné CNN. Sur les réseaux sociaux, les gens montrent une version embellie et filtrée de leur vie. Il est facile, surtout pour des enfants sensibles et peu sûrs d'eux, de croire qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est pourquoi il est essentiel d'expliquer aux enfants pourquoi ils ne doivent pas se comparer à ce qu'ils voient en ligne. Faites savoir à votre adolescent qu'un téléphone intelligent peut affecter sa santé et que vous voulez l'aider à développer des habitudes saines. Toutes les quelques semaines, discutez ensemble de son utilisation, a conseillé le Dr. Barzilay. C'était dépression, obésité, manque de sommeil. Les téléphones intelligents pourraient mettre vos enfants en danger, suggère une étude, un texte de l'agence QMI, publié le 1er décembre 2025 dans le Journal de Montréal.